Actu SF, les podcasts.
Bonjour, merci d'être là pour cette table ronde consacrée à The Leftovers. Alors, on ne va pas forcément parler de la série. L'idée est autre. Je vais d'abord présenter les invités. Christian Lehmann, tu lèves la main, Christian. Voilà. Médecin depuis 84 et désormais retraité. Et oui, ça arrive à des gens très bien. Et auteur de romans avec notamment la trilogie No Pasaran, le jeu. Tu interviens souvent pour défendre les assurés contre la réforme de la Sécu, par exemple, et tiens un blog à Libération depuis mars 2020 sur le Covid pour alerter l'opinion concernant l'effondrement du système de santé français. Depuis, le blog est hébergé sur ton site personnel. Nicolas Martin, tu es journaliste et producteur de radio, animant sur France Culture et entre autres programmes l'émission Les méthodes scientifiques de 2016 à 2022. C'est bon. En 2020, tu animes un podcast radiographie du coronavirus et tu as commencé par des études de littéraire, je précise, et tu as enseigné et tu es également écrivain et réalisateur. Stéphanie Simon, tu es romancière tu es chercheuse en immunoanalyse et pharmacologie au CEA et responsable de service et de laboratoire dans lequel sont organisés les protocoles de diagnostic de maladies infectieuses. Tu as également été coordinatrice du programme de lutte contre les menaces terroristes et notamment le bioterrorisme. Claire Norf, tu es romancière de fantasy sous le nom de Cap Griffin et de SF. Alors désolé, on a dû te présenter maintes fois de cette manière, mais voilà, tu as commencé très tôt puisque tu publies ton premier roman à l'âge de 16 ans et encore, il avait été écrit à l'âge de 14. Pour en citer un, 48K est une dystopie terrible dans laquelle l'argent a pouvoir sur tout, y compris sur les lois. En fait, une caricature de notre monde et une alerte sur son évolution. Not from a Burning Age, qui n'est pas encore traduit en français, si mes informations sont exactes, est un roman dystopique qui se passe après une catastrophe écologique. Alors, commençons d'abord par finalement l'intitulé de la table ronde, à savoir The Leftovers. Alors, je pense qu'un certain nombre de personnes ont vu la série. Damon Lindelof, le créateur de la série, était déjà connu pour avoir notamment créé la série Lost et pour avoir plus récemment travaillé sur celle de Watchmen, de l'adaptation donc de la bande dessinée d'Alan Moore. Il a une approche assez originale, je trouve, notamment de laisser toujours planer un certain doute et de ne pas être forcément très explicite concernant la nature même de l'incident déclencheur. Ce qui fait que, par exemple, quand on regarde The Leftovers, en tout cas pour les premiers épisodes, on hésite entre une lecture de science-fictionniste ou de fantastique ou voire métaphysique. C'est très intéressant parce qu'il y a cette double lecture qui est toujours permanente. J'aimerais d'abord demander à chacun d'entre vous la manière dont vous avez reçu cette série.
Ok, on commence par la gauche. Non, bah ouais. Oui, c'est très juste ce que tu dis. Moi, ce qui est intéressant avec The Leftovers, c'est qu'il m'est arrivé exactement ce que tu décris. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai vu, alors, contrairement à beaucoup de gens, moi, je trouve que Lost est une grande série et même si elle est discutable sur la fin, je trouve que c'est une série qui a fait beaucoup de bien à l'imaginaire science-fictionnel, à l'imaginaire fantastique, même si il y a évidemment des défauts et des dérives, mais enfin je trouve que c'est une série qui est malgré tout remarquablement écrite. Et quand je vois The Leftovers, en fait, il y a un malentendu avec cette série, puisque je vois ce pitch qui est de dire, voilà, et puis surtout avec cette intro incroyable, hein, avec la scène du supermarché, le caddie et tout, où 2% de la population disparaît, et je m'attends à quelque chose qui ressemble à Lost, c'est-à-dire finalement à un récit de science-fiction où on va se dire mais qu'est-ce qui s'est passé. Or, ça n'est évidemment pas du tout en fait le postulat de la série, c'est un malentendu volontaire et du coup au bout des premiers épisodes je me rends compte que ça part complètement ailleurs et en fait je me dis bon, il m'emmerde, il va pas me refaire un sous-Lost ou un bas, je laisse tomber. Et puis il y a pas mal de gens qui me disent bon, tu devrais réessayer, et puis j'ai une passion pour Max Richter, pour cette musique très entêtante, enfin et du coup je retente en laissant tomber cet a priori là Et il s'avère par ailleurs que c'est les moments où mon père est en train de mourir. Et d'un seul coup, je vois tout de suite m'apparaître, mais avec une clarté glaçante, que cette série ne va faire que parler de la disparition, de celle que je suis en train de vivre, et de ce que c'est que de vivre avec un disparu. Et là, je plonge complètement dans le récit.
D'où le titre, d'ailleurs.
Voilà. Oui, bien sûr, tout à fait. Et du coup, je plonge en immersion, presque en apnée dans cette série, et je vois le chef-d'œuvre que c'est, le chef-d'œuvre narratif, dans le sens où c'est exactement ce qu'on attend des récits d'imaginaire ou science-fictionnel, c'est-à-dire d'utiliser un cadre, un univers qui relève du merveilleux ou du surnaturel pour parler de l'intime. C'est l'extime et l'intime, et pour aller au plus profond, finalement, de nos blessures, de nos tristesses, de nos impossibilités de vivre. Et voilà, je trouve que aujourd'hui The Leftovers, c'est pour moi peut-être l'une des plus grandes séries qui a été écrite dans le domaine de l'imaginaire, alors que c'est pas forcément une série facile et que c'est pas forcément une série qui parle vraiment d'imaginaire.
Christian,
moi c'est un ami qui m'en a parlé récemment et qui m'a dit qu'il fallait que j'essaye, sinon je n'y serais pas venu parce que j'avais l'impression que le contexte qui m'apparaissait religieux derrière la série avec la grande disparition de Rapture, c'était vraiment un truc que j'avais pas envie, dont j'avais pas envie d'entendre parler. Et quand j'ai commencé à la regarder il y a quelques mois, ça a fait écho avec ce que nous avons tous en tant que société vécu avec le Covid, que donc j'ai chroniqué, que je chronique toujours dans Libération depuis mars 2020. Et dans ce super bouquin, Les résonances de The Leftovers, il y a cette petite chose que j'aimerais citer qui vraiment reprend ce que je pense. The Leftovers, au travers de la soudaine disparition, parle de ces pertes brutales. Impossible d'enterrer les corps, toutefois, ni de faire le deuil sans plus d'explications. L'expérience est collective, mondiale, comme une forme de syndrome de stress post-traumatique généralisé à tous les individus. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un écrasant sentiment de culpabilité qui peut amener à un début de dépression, voire à des idées autodestructrices. Que se passerait-il si la majorité de la population mondiale expérimentait en même temps ces syndromes intenses de stress psychologique ? Et si ça m'a parlé, c'est parce que je pense que le Covid a été une expérience mondiale non seulement virologique, une pandémie, mais qu'on essaye d'oublier trop rapidement la manière dont ça nous a impacté psychologiquement. Vous avez peut-être vécu ça, ou vous connaissez des gens qui ont vécu ça, qui ont vu des proches partir à l'hôpital et ne jamais revenir, qui n'ont pas pu leur parler, ou peut-être à travers une tablette ou un téléphone. J'en ai parmi mes copains, des soignants. On pourrait dire, finalement, ça n'a tué que 0,5% de la population. C'est suffisant pour avoir un effet majeur, je pense, sur l'ensemble des survivants. Et si j'en ai parlé à Olivier, si j'en ai parlé à Jeanne, si j'ai dit j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose sur Leftovers, c'est parce que d'une certaine manière, et alors que le virus est toujours là, je pense que nous sommes les Leftovers du Covid. Voilà.
Bonjour à tous. Alors j'avoue, je n'ai pas regardé les Leftovers, mais que fais-je là ? Non, j'ai commencé en fait la série, c'est vrai, et j'ai pas accroché, donc peut-être qu'il faut que je reprenne comme racontait Nicolas tout à l'heure. Et là où je rejoins aussi Christian, c'est que les disparus, nos disparus du Covid, on n'a pas été capable de les toucher, de les voir et de les accompagner dans la disparition. Et je pense qu'en ça, en effet, il y a de fortes similitudes avec les Leftovers, que je n'ai pas vues.
I also have not seen The Leftovers, because currently there is Disney Plus, there is Netflix, there is Sky, there is too much. My apologies. If you are enjoying this in French, thank you to the translators who are making this happen. What I would like to say is that with a lot of the series, like The Leftovers, they take a macro idea and then use the craft of science fiction to condense it down to the personal. Neurologically, we are very, very bad at encompassing big ideas. It's why when you read a statistic, 7,000 people died, you blank. But when you hear the story, a cat was killed, you go, oh. And I think the gift of fiction like this, and indeed of a lot of modern science fiction, is to try and condense the massive down to the emotional. And it is where fiction excels in a way that fact sometimes struggles with.
Donc on va commencer donc le débat sur le fond de la table ronde. Alors il y a quelque chose qui m'étonne beaucoup et qui m'inquiète énormément, donc j'aimerais avoir vos réactions. Il y a un verbe qui est très utilisé pour parler des dangers auxquels on est confronté, c'est le verbe de croire. Je ne crois pas en le Covid, sous-entendu, ça n'existe pas, les gens sont juste morts de vieillesse. Je ne plaisante pas, je l'ai entendu ça. Ou alors... je ne crois pas en le réchauffement de la planète. C'est-à-dire que, bien que l'on parle de faits qui sont quantifiables et qui relèvent de la méthodologie scientifique, certaines personnes plaquent un verbe qui est associé en fait à la croyance, à la foi, du type « je crois en Dieu » ou « je ne crois pas en Dieu ». Alors, comment ces deux domaines, le religieux et le scientifique, qui étaient pourtant extrêmement opposés pendant des siècles, sont-ils arrivés depuis quelques décennies à ce degré de porosité ?
Donc c'est le moment où on commence à se faire des amis, c'est ça ?
Voilà.
Juste une petite question. Qui a vu The Leftovers dans la salle ? Ok. Donc, pas mal. Qui aime The Leftovers dans la salle ? Voilà. Bon, alors, non, mais c'était intéressant pour savoir. On va essayer de redonner des pistes et puis évidemment étendre le débat. Non, ce que tu notes là, ce qui est à mon avis vraiment un des symptômes de notre époque et qui a été mis en valeur de manière assez radicale et assez violente pendant cette pandémie, c'est effectivement quelque chose qu'on connaissait, qu'on avait vu, mais qui a pris une ampleur différente et inquiétante, c'est-à-dire le fait de confondre les faits et les opinions, les croyances et les faits scientifiques. Ça a toujours existé hein, de tout temps. C'est pas du tout nouveau. Mais on a vu en fait surtout surgir une défiance vis-à-vis de la parole scientifique comme parole d'autorité. Hein, donc mettant la parole scientifique dans le même sac que toutes les formes de parole d'autorité qu'on ne peut plus croire, hein, c'est ce qu'on appelle la post-vérité, etc., etc. Parce que on est arrivé. Enfin, moi, je dis toujours quelque chose quand même alors, je vais essayer de mettre les choses dans l'ordre. Pardon. On ne savait pas. C'est-à-dire que on a été confronté à un virus nouveau contre lequel personne n'était immunisé et il a fallu aller très vite. Et donc est arrivé sur le devant de la scène médiatique et publique, quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Les gens pensent, en général, les citoyennes et les citoyens pensent que la science est là pour discriminer le vrai du faux, pour dire ceci est vrai, ceci est faux. Ça n'est pas ce que fait la science. La science est là pour définir le réel jusqu'à preuve du contraire. L'un des fondements de la pensée scientifique, c'est la réfutabilité. Si vous pouvez réfuter une idée, c'est qu'elle est a priori scientifique. Si je dis je crois Dieu existe, je ne peux pas le réfuter, ça n'est pas scientifique. Voilà. Et d'un seul coup, on a vu... Pardon. C'est peut-être beau gosse. Il n'avait pas de moustache à l'époque. Bref, pardon, ça me perturbe un peu. J'y reviens. Et donc, du coup, on s'est rendu compte que, d'un seul coup, on a vu, sur le devant de la scène... c'est compliqué, hein. Alors... Sur le devant de la scène, on a vu ce qu'est la recherche. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la recherche ? C'est précisément des gens, des scientifiques qui s'engueulent, qui avancent des hypothèses, qui sont réfutées, qui sont contredites, jusqu'à un moment où émerge un consensus scientifique. Le consensus scientifique, c'est ce qu'on sait et c'est ce qui apparaît normalement au grand public une fois que plusieurs laboratoires ont fait des essais randomisés, contrôlés, double aveugles et sont arrivés à un consensus qui définit une réalité scientifique jusqu'à preuve du contraire. Et donc, on a vu des gens s'engueuler et des gens avancer des hypothèses qui étaient réfutées. Et
dans un contexte de méfiance, de défiance envers une parole d'autorité, la réaction a été de dire, ben vous voyez, les scientifiques racontent n'importe quoi, ils disent ça un jour, ils disent le contraire l'autre jour. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité scientifique, et donc ça veut dire que la vérité scientifique telle qu'elle est présentée est une opinion comme une autre. Et donc, on arrive à un niveau de confusion qui a été entretenu par des charlatans qui ont eu une tribune libre, on ne va pas redire le nom du druide marseillais, mais c'est à lui qu'on pense, et notamment, et pas que. Moi, j'ai des souvenirs quand même assez cruels quand Luc Montagnier, ex-prix Nobel, est venu sur les plateaux pour raconter que le Covid avait été manufacturé à partir du VIH, ce qui était absolument n'importe quoi. Mais Luc Montagnier racontait globalement n'importe quoi depuis 20 ans. Et d'un seul coup, ben voilà, les gens disaient mais vous, qui êtes-vous, sale petit merdeux de journaliste, pour contredire la parole d'un prix Nobel. Donc, on est arrivé dans cette espèce de maelstrom de d'informations et de confusion entre une parole scientifique dévalorisée, démonétisée et des gens qui essayaient malgré tout de faire avancer la recherche. Et pour finir par arriver, à mon avis, à quelque chose qui est central, et j'en terminerai là, et qui, moi, me rend, enfin, que j'ai encore du mal à accepter et à comprendre, c'est de se dire que scientifiquement, on a fait quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire qu'on a réussi non pas à trouver un vaccin, mais à trouver deux, trois, quatre vaccins en 6 mois. C'est-à-dire qu'en termes de recherche biomédicale, c'est comme envoyer les hommes sur la Lune. C'est-à-dire que c'était un progrès scientifique majeur. Ce progrès scientifique majeur, non seulement il n'a pas été reconnu comme tel, mais en plus, il a généré une forme d'opposition obscurantiste et radicale qui qu'aujourd'hui je ne m'explique toujours pas et qui, à mon avis, est un des symptômes de l'évolution de notre rapport à la société, au discours scientifique aujourd'hui, qu'il faut vraiment déplorer, quoi.
Je fais une petite parenthèse parce que je pense que d'autres invités vont vouloir réagir aussi. Il y a un ancien médecin reconverti à la médecine alternative qui a dit 3 phrases que je trouve extraordinaires. La première: le but du vaccin n'a jamais été de protéger mais d'empoisonner. Les vaccins sont des poisons calculés. Ensuite, une autre phrase magnifique à propos des malades du VIH qui ont été guéris en 2 jours en buvant leur urine grâce à, je cite, l'énergie du sang filtré qu'est l'urine qui vibre sur une longueur d'onde de vitalité énorme. Et pour terminer, parce que c'est encore plus joli, Hitler, Staline, c'était des nains de jardin à côté de Monsieur Bill Gates. Bon, c'est quand même un ancien médecin qui était en train de scier la branche sur laquelle il est assis.
C'est pas un ancien médecin, c'est un clown, c'est un criminel, c'est un charlatan, c'est un abruti.
Tu vois de qui je parle. Oui, bon.
Je vais faire un salto arrière et me rattraper à la branche de Leftovers. Get a room. Dans The Leftovers, il y a la même chose que ce qu'on a vu avec le Covid. Il y a une population qui est tétanisée et qui a peur. Et quand je dis population, c'est nous aussi, hein. Moi, je ne savais pas, quand je rentrais chez moi le soir, si je n'allais pas amener le virus à ma famille. C'est-à-dire, j'arrivais en bas, je me dessapais, je foutais tout dans un sac en boule que je mettais dans la machine et je montais sans croiser ma femme et mes enfants pour me laver pendant 3 quarts d'heure dans la salle de bain avant de sortir. Donc je ne dis pas vous aviez peur. On était tous terrorisés. Moi, j'ai créé un Covid-Rome et je me souviens quand j'ai demandé aux collègues médecins, parce qu'on voulait protéger l'hôpital près de là où on était, on disait si à l'hôpital tout le monde arrive en même temps, ça va être une cata. Donc on a créé un espèce... Un grand hangar dans lequel on recevait les gens. J'avais l'impression d'être Jeff Goldblum dans un film de science-fiction américain où le président lui dit « Mais lui, il n'est pas con, on va lui... » Donc je disais aux pompiers « On va mettre ça là » en me disant « À un moment, ils vont se rendre compte que je suis un charlatan complet. » Mais il se trouve que ça a fonctionné. Mais tous les copains qui sont venus travailler, les médecins, les infirmiers, les trucs, ne savaient pas s'ils se mettaient en danger en arrivant là. Donc on était dans cette peur. Et comme tu l'as dit, les informations changeaient parce que de jour en jour, on agrégeait des choses. Si vous avez regardé une autre série, Urgence, que j'ai adoré dans Urgence, c'est voir des médecins, des savants, des gens qu'on aime bien, le docteur Green, le docteur Ross, etc., s'engueuler comme du poisson pourri sur la manière et le protocole pour soigner un patient. Mais s'engueuler honnêtement, en disant « Moi, je pense que vu son rein, on ne peut pas lui donner ça. Mais si, tu sais bien que si on passe les 48 premières heures, etc. » Ça, c'est l'honnêteté. La malhonnêteté, c'est de dire « Ça passe par les mains et je suis l'élite. » Voilà. Mais si vous dites ça passe par les mains et je suis l'élite et que tout le monde vient vous voir à Marseille comme si vous étiez le druide Panoramix, comme vous ne changez jamais d'idée et que vous gardez votre mensonge de départ, vous allez agréger des gens qui n'ont pas besoin de la vérité ou de la réalité, qui ont besoin d'un roc. Qui ont besoin d'un roc, même si ce roc, c'est un récif sur lequel ils vont s'effondrer. Donc, ce qu'on a vu, c'est ça. Il y a des gens... Une autre série, Game of Thrones. Dans Game of Thrones, Littlefinger dit « Qu'est-ce que c'est le chaos ?»« Chaos is a ladder. » Le chaos, c'est une échelle pour ceux qui veulent bien le monter, qui ne s'arrête pas à la vérité, qui ne s'arrête pas à la fraternité, qui ne s'arrête pas à la loyauté, qui veulent arriver en haut du pouvoir. Et dans The Leftovers, il y a des sectes. Il y a Saint Wayne qui touche les gens pour leur faire partir leur souffrance. Il y a les coupables survivants. Ils sont terrifiants, mais ils ont trouvé un mode de fonctionnement en interne où ils agrègent des gens qui sont paumés. Et je pense que c'est ça qu'on a vu.
Si je peux compléter un peu. Ce qui était important, je pense, pendant la crise Covid, c'est qu'on avait une dose de stress et d'anxiété qui était maximale. Et je pense que tout individu, et c'est le mécanisme du cerveau hein, qui veut ça, cherche à minimiser en fait le degré de stress, l'incertitude. Et donc, pour ça, utilise tous les moyens possibles. Donc le déni, la croyance en font partie, je pense, pour pouvoir diminuer ce niveau de stress, ce qui a permis et engendré tout ce qu'on a pu voir. Ensuite, pour l'avoir vécu de l'intérieur, ce qui était compliqué aussi cette période, c'est que finalement, quand ce virus est arrivé, on n'en connaissait à peu près rien. On avait quelques informations qui venaient de la Chine pour les premières études qui étaient déjà faites. Et donc, il a fallu gérer différentes temporalités, c'est-à-dire l'acquisition des connaissances, et donc sur un temps très court, et ça a été pour ça aussi formidable, parce que je pense qu'on a tous les chercheurs qui étaient impliqués ont pu emmagasiner de la connaissance rapidement. Mais ça va de pair avec ce que vous disiez, c'est-à-dire que les informations peuvent être contradictoires, tout n'est pas validé, vérifié, et cette temporalité est très différente, donc l'acquisition des connaissances est très différente de la science, qu'on pourrait appeler la science, c'est-à-dire avec des faits, des faits acquis, validés par les pairs, revus, etc. Et je pense que c'était aussi quelque chose qui a joué beaucoup pendant la crise, c'est que ces informations contradictoires ont pu donner de l'espace pour pouvoir croire ou ne pas croire, ou être dans le déni des informations. Je pense que c'est quelque chose qui a été aussi très important. Après, juste pour revenir sur le vaccin ARN, c'est vrai qu'il a été pas bien reconnu au moment du développement et de son déploiement. Il a été réhabilité d'une certaine façon par la remise du prix Nobel début octobre, là, prix Nobel de médecine et physiologie sur les vaccins, l'utilisation de l'ARN messager dans les vaccins.
I would like to pick up on the fact that we are hitting on scientists right now and saying, well, scientists struggle to communicate this. Scientists in the UK were not doing most of the communication. Our politicians were. And the way our politicians communicated was going by whiff, waff, it'll be fine, we'll just shake each other's hands. There was a massive failure of political leadership. And what the political leadership tends to do is say, look at the scientists, they're giving us bad information. While science and truth, such as it is filtered through people like Boris Johnson or worse, Donald Trump, who spent the entire pandemic going, just drink bleach, I believe it. Of course there's going to be chaos. And I think we have to hold the political establishment to account for the failure to communicate facts and reality. We also have to hold the social media algorithms to account. For every 99 scientists going, climate change is real and vaccines work, there's one person saying, drink your urine and burn that petrol. And that's the voice that gets amplified by the algorithm, because the algorithm picks up on your outrage. Every time you respond to that going, that's the stupidest thing I've ever heard, that message gets boosted and amplified and makes it then harder to communicate the truth.
Ouais,
je voudrais juste réagir à ce que dit Claire est très très juste. Hein. C'est-à-dire qu'on est face à un système de communication d'information qui privilégie la radicalité et qui privilégie l'antagonisme. Et ça a joué un rôle désastreux, mais pas uniquement les algorithmes Twitter. Malheureusement, encore une fois, il y a aussi là-dedans, par manque de culture scientifique, par volonté de vendre plus cher de la publicité. Hein. N'oublions pas que c'est le moteur des chaînes d'information privées et que quand on va recevoir Didier Raoult, non pas en plateau, mais dans son bureau à Marseille, déjà on dit quelque chose de compliqué, et qu'en plus, derrière, on fait des grosses audiences et donc on vend plus de pubs. Hein. Je veux dire, il faut savoir que c'est quand même ça, la mobilisation initiale, puisque après la fameuse étude pourrie sur l'hydroxychloroquine, tout le monde a dit eh, « c'est quand même pas très très sérieux cette histoire », mais ça n'a pas empêché le président de la République d'aller lui serrer la paluche, et c'est ça qui a vraiment tout commencé à provoquer en termes de représentation. Hein. Je veux dire, on voit bien, j'avais fait une émission dans la méthode scientifique où on voit bien que sur le fin de partie pour la Covid, ça l'avait boosté un peu en visibilité, mais le début de l'affaire Raoult, c'est la visite de Macron à Marseille. Donc ça veut dire qu'il est validé par les autorités politiques, par des journalistes peu scrupuleux de la vérité scientifique, mais plus scrupuleux de l'audience et du prix de l'encart publicitaire. Ce que je voulais dire par rapport à ce que disait Christian, et pour répondre aussi, parce que évidemment qu'on était dans cette angoisse collective qui était extrêmement prégnante, qu'on voyait des gens partir, qu'on avait peur pour nos proches. Ça me fait penser, parce que c'est aussi ce dont parle The Leftovers, un petit livre que j'adore de Stieg Dagerman qui s'appelle « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». Nous avons besoin d'être consolés. Nous avons besoin, et il est plus facile d'accepter une vérité simple, même si elle n'est pas tout à fait honnête, qu'une vérité complexe qui va demander plus d'efforts. Quand il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « fin de partie pour la Covid », on a envie de le croire. On a envie de le croire parce qu'on est stressé, parce que c'est un message simple, qu'il est facile à intégrer, et que bah, si ça fait une petite clé de bras à la vérité, bon ben c'est pas très grave parce qu'on est apaisé, on est tranquillisé et c'est d'autant plus insupportable que ça joue sur ce besoin de consolation absolue, constant, éternel qui est le nôtre en tant qu'espèce humaine. Et on a besoin d'être consolé parce que sans consolation, à ce moment-là, qu'est-ce qui reste derrière ? C'est l'abîme, c'est le vide, c'est la perte, c'est l'absence et c'est insupportable.
Pour revenir sur ce que disaient Claire et Stéphanie. Quelques faits. Il y a une étude de l'OCDE parue en 2022 qui suggère que, je dis qui suggère parce qu'en fait d'autres études ont donné des pourcentages différents, que 43% des Français estiment que la contribution humaine au réchauffement est nulle ou non déterminante. Réchauffement climatique, on est bien d'accord. Sur Twitter, donc X maintenant, on trouve des hashtags extrêmement classieux de sécheresse mon cul. Et canicule mon cul, en un seul mot, évidemment, si vous voulez les chercher, au cas où ça vous intéresse. Alors, ça, c'est évidemment ce dont on parlait, à savoir cette fabrication de l'opinion générale par des individus. Mais après, il y a autre chose, et tu commences à en parler. Il y a une enquête commanditée par Ipsos et EDF entre 2019 et 2022 qui montre que le pourcentage de personnes sceptiques a augmenté en France de 8 points entre 21 et 22, sceptiques par rapport au réchauffement climatique. C'est-à-dire 8 points, on arrive à 37%. Alors, est-ce qu'il s'agit de la première phase d'acceptation qui commence généralement par le déni du type... On arrive chez son médecin qui est avec les radios des bronches et qui dit bah, « je suis désolé, mais vous avez un cancer ». Et la première réaction, c'est « non, non, mais vous êtes sûr, vous vous trompez pas, c'est vraiment mes radios à moi ». Bon, voilà. Est-ce qu'on n'a pas en fait cette augmentation curieuse devant les faits n'est pas due à une défense psychologique ?
Alors, je ne sais pas si elle est due à une défense psychologique ou si, comme plusieurs l'ont dit, Claire et toi, Nicolas, il y a une rationalité politique derrière. Les choses doivent continuer comme avant. Enfin, je veux dire, je reviens dans The Leftovers, l'État agit d'une manière quasiment fasciste dès que quelqu'un sort de la ligne. Les sectes sont poursuivies et sont exterminées. Ici, aujourd'hui, en France, et c'est le cas en Angleterre, dans plein d'autres pays, en gros, on a eu 2020, c'était l'année de la grande peur, 2021, c'était l'année du vaccin, début 2022, Macron avait réélection en juin, on nous a expliqué que c'était terminé, qu'on avait de la chance parce que Omicron arrivait et qu'il était mild, léger, que tout le monde serait infecté une fois et qu'ensuite on n'entendrait plus parler. La pandémie s'est terminée politiquement en France en janvier 2022. La réalité, c'est que depuis l'année dernière, en 2022, il y a eu à peu près 30 millions d'infections en France, que des gens ont été infectés, réinfectés par Omicron 3-4 fois avec des risques de Covid long, et que ça continue. Mais on a des ministres de la Santé qui... Parce qu'il n'y a pas que les druides en blouse blanche. On a Olivier Véran qui arrive et qui dit « La France a acquis une culture du masque en mars 2022, alors que c'est totalement faux. » On a des gens qui vous disent qu'il y a une campagne vaccinale en cours en ce moment. Il n'y a pas de campagne vaccinale. Il y a une disponibilité du vaccin en pharmacie et 5% des gens se feront vacciner parce que la réalité, c'est qu'on n'a rien mis en place pour vacciner. Il n'y a pas de centres vaccinaux et les soignants, les médecins, les infirmiers, les trucs sont trucs. On fait juste semblant que ça existe. Donc ça, c'est une réalité. Ce que je veux dire, donc, c'est qu'il faut qu'on continue à fonctionner malgré le Covid, comme avant, pour que ça tourne, pour que la machine industrielle tourne sans qu'on vous protège dans les lieux clos et les trains, les bus, etc. Et tout. Et c'est la même chose pour le réchauffement. S'occuper réellement du réchauffement climatique nécessiterait des modifications. Donc le déni, il n'est pas seulement psychologique et il n'est pas lié seulement aux algorithmes de Twitter. Il est lié au fait que la machine capitaliste en tant que telle n'a aucun intérêt à ce que vous intégriez quelque chose que vous, comme moi, nous n'avons déjà pas envie d'intégrer parce que ça nous angoisse, c'est-à-dire que l'aiguille se rapproche de minuit de plus en plus. Donc nous, on n'a pas envie de le voir parce que ça nécessiterait des changements et tout est fait pour qu'on le nie.
Picking up on capitalism is the problem. Capitalism is the problem. But also, I think it's relevant with climate change in particular to point out that for years, the climate change movement, the people fighting against it, have been struggling with the fact that the narrative is one of fear. Fear is a poor weapon for motivating human change. Fear suppresses. It keeps you at home. It makes you cowed. It is very rarely a thing that provokes strong action. The recent shift in the climate movement, which hopefully will have some effect, is shifting that narrative to one of hope. Not, we're all going to burn and there's nothing you can do, but the world is in trouble and we can make a difference not only to not catch fire and die, but also to create a more equitable and more just future. And I think the stories we tell collectively are incredibly important in recognizing that we need to not just talk about the terror of all the things we've experienced, but the hope of what we can build after it. And if we don't, we're going to end up just building more terrible, terrible capitalism.
Et pour revenir à The Leftovers, je trouve qu'il y a aussi quelque chose qui est absolument remarquable dans cette série, c'est cette plongée dans cette secte mutique qui parle aussi, d'une certaine manière, de notre pulsion de mort. C'est-à-dire de se dire la réponse à une situation de crise mondiale et de crise intime et internationale, c'est de précipiter notre propre chute. C'est se mettre à fumer en continu des cigarettes et vivre une vie d'ascèse qui va nous détruire à petit feu parce qu'il faut, d'une certaine manière, payer. Rendre une sorte de tribut à notre propre culpabilité d'avoir survécu. Et je pense que ça, c'est un mécanisme. Alors, vous allez me dire que c'est un peu de la psychologie de comptoir et vous auriez raison, mais je pense que c'est vraiment l'un des grands, grands talents de cette série, c'est d'avoir tout ce pan qui est très déstabilisant au début quand on commence à regarder, la série. Ah, ça suffit. Hein. Et qu'on se demande vraiment qu'est-ce qui se passe, où ça va et quel est l'enjeu dramatique ou narratif du passage de Liv Tyler dans cette secte et de ce personnage absolument génial joué par Anne Dodd qui joue aussi dans La Servante écarlate et qui est absolument glaçante et qui va devenir en fait la principale antagoniste de la série. Mais en fait c'est là où on voit la qualité d'écriture, la qualité narrative de cette série, c'est dans la finesse de cette représentation de nos propres pulsions de mort et de nos propres qui sont vraiment générées par cette culpabilité du survivant. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très juste, très fort et très dur.
Je vais donner encore quelques autres chiffres. Les dérives sectaires, on le vend en poupe depuis 2020. Évidemment, la date n'est pas choisie au hasard. Une hausse de 33,6% entre 2020 et 2021, selon Mivilud, donc la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une importante proportion est liée au secteur de la santé, par le biais de traitements plus naturels, mais d'une efficacité souvent à démontrer. Pour quelles raisons la médecine conventionnelle a d'une certaine façon perdu une partie de son aura?
À cause de Christian Lehmann.
Bah, il exerce plus.
Non, avec des... Mais il y a une raison à ça.
Et tout est lié. Vous croyez que c'est... Mais non.
Tout est lié et inversement.
Demandez à Didier Raoult. C'est lui.
Le problème de la médecine, c'est aussi le capitalisme. C'est-à-dire que beaucoup des gens qui tiennent un discours alternatif sur la médecine ont quand même l'intelligence ou la ruse de pointer les écueils ou les failles. C'est-à-dire que il y a tout un tas de gens qui ont appris l'existence de Big Pharma, du Vioxx, des problèmes médicaux en 2020. Et qui ont considéré que, par exemple, des gens comme moi, on était certainement dans la paye de l'industrie pharmaceutique, puisqu'on était contre l'hydroxychloroquine et pour le vaccin. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il leur suffirait de regarder ce que j'ai écrit, moi et les autres, depuis 25 ans avec la revue Prescrire, pour voir qu'on s'est tapé l'industrie pharmaceutique pendant 25 ans. Mais eux, d'un seul coup, ils ont une tête de gondole, Raoult, qui leur dit « Moi, je suis là avec mes apôtres comme Douste Blasi », rincé par le laboratoire Servier depuis qu'il a de l'hydroxychloroquine qui lui coule du nez, mais il était soudain un grand combattant contre Big Pharma, mis en avant dans Front Populaire de Michel Onfray, alors que ce type a des casseroles derrière, comme s'il était marié quatre fois par jour. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des failles en médecine, il y a une espèce de lourdeur mandarinale que représente très très bien Didier Raoult. Et les alternatifs pointent des choses qui sont dramatiques, comme par exemple le fait que, allez, on va le dire, on va se faire des amis, le dépistage du cancer de la prostate de manière systématique par le dosage sanguin du PSA ne sert à rien et est plutôt délétère pour les patients. L'inventeur du PSA, c'est-à-dire l'antigène spécifique prostatique, qui est américain, 20 ans après, a écrit un livre dans lequel il considère que malheureusement, ça a été une faillite scientifique et morale, mais on continue à avoir Octobre Rose en octobre et Movember en disant « faites-vous dépister ». Ces gens-là sont quand même capables de lire parfois de la littérature scientifique et pointent les erreurs de l'establishment qui ne veut pas en entendre parler. Donc, à partir de là, il leur suffit de s'accrocher sur un déni médical ou un scandale médical de tel ou tel laboratoire qui est réel pour pouvoir dire « Regardez, je vous ai ouvert les yeux, je vous ai montré, par exemple, que les anti-Alzheimer ne servent à rien et donnent des accidents vasculaires cérébraux. C'est une déflagration pour des gens qui en ont donné ou qui ont vu donner ces médicaments à leur papa, à leur maman, à leur grand-mère, à leur grand-père. Et ils se disent « J'ai trouvé la personne qui va me guider » comme Moïse à travers le désert de la médecine. C'est-à-dire que, plus clairement, parce que nous, les petits, les sans-grades, les généralistes à 23 euros à l'époque, nous n'avons pas réussi à contrer le discours des Raoult, le discours des Douste Blasi, le discours des Montagnier, etc., parce qu'ils avaient le haut du panier, le Nobel, les trucs, lorsqu'ils ont menti, ça a eu, quand ça a été révélé, des conséquences dramatiques pour l'image même de la médecine.
Et par rapport à ce que disait Claire aussi tout à l'heure, c'est que ces scandales médicaux ou ces occupations, suroccupations de la scène médiatique, c'est ça qui est ensuite relayé et amplifié par les réseaux sociaux, alors que les actions « normales » entre guillemets le sont beaucoup moins. Donc ça prend une ampleur d'autant plus importante.
I think I'd also like to add that we don't know what smallpox looks like. We don't really know what TB looks like. We have got very used to a world in which we take for granted the absence of these things. And I think it is hard to invest in being astonished and amazed and excited by the absence of something compared to the visible sight of it. We also live in a world where it is now possible to survive cancer. And we've been in many ways raised to go, you as an individual have agency and can do so much. So when we are met with something which takes away our agency, and which we cannot cure and cannot solve, this, I think, runs very contrary to the narrative of the 21st century. We are powerless. We don't have the answer. And it's terrifying.
Et pour compléter, c'est très juste ce que dit Claire. Et c'est intéressant parce que le prochain bouquin que puisque je suis éditeur maintenant pour je publie des bouquins de vulgarisation scientifique pour les arènes qu'on va sortir au mois de mars avec Alexandra Delbo et Florent Gouttière, c'est un bouquin sur les médecines alternatives et complémentaires pour essayer de savoir en fait qu'est-ce que c'est que ces différentes médecines alternatives et complémentaires. On peut faire un petit test si on parle de petite huile essentielle, un tour chez l'ostéo, éventuellement une cure du psilocoxinum avant l'hiver, pour, je sais pas, peut-être de l'hypnose pour arrêter de fumer. On peut faire un test. Qui a déjà eu recours au moins une fois dans sa vie à ce type de pratique? Allez-y. Soyez honnête maintenant. Honnête. Plus. Non, en vrai, tout le monde, globalement. Même moi, il m'arrive de mettre du curcuma dans mon thé au citron en hiver en me disant que ça va booster. Mais prendre de la vitamine C, ça ne sert à rien. Vous en pissez 99,9%. Tout ça, c'est vendu par des pharmaciens. C'est du commerce, c'est du capitalisme, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que alors que on vient de faire une démonstration extrêmement puissamment scientifique, d'être capable de construire plusieurs vaccins à partir d'une nouvelle technologie en 6 mois, alors qu'aujourd'hui, dans la lutte contre le cancer, on arrive à des taux de rémission à 10 ans qui sont presque d'un cancer sur deux. Je veux dire, alors qu'aujourd'hui, on a réussi quasiment, définitivement, presque à endiguer l'épidémie de VIH. La médecine n'a jamais été aussi puissante. Et il y a évidemment des apories. Les maladies neurodégénératives, pour le moment, c'est une impasse, on n'y arrive pas. Croyez bien que ça cherche. Hein. Croyez bien que le premier labo qui va réussir à trouver la molécule qui va permettre de stabiliser ou de ralentir les maladies neurodégénératives, il va se faire des couilles en or, pour le dire un peu vulgairement. Donc croyez bien qu'il y a des efforts de recherche qui sont déployés. Et pourtant, ces médecines alternatives et complémentaires on n'a jamais eu autant recours à ça. Croyez-moi, moi, quand on commence à regarder, on en voit partout. Sur l'aventure des pharmacies pour l'ocylococcinum, enfin, souvenez-vous, hein, l'ocylococcinum, c'est des dilutions homéopathiques, c'est-à-dire que vous avez autant de chances de trouver dans une granule homéopathique une molécule active qu'une molécule active dans l'ensemble des océans de la Terre. Donc c'est pour dire à quel point c'est efficace. L'avantage, c'est que si vous voulez faire une overdose d'ocylococcinum, vous risquez à peine une crise de foie, donc ça c'est moins grave. Mais donc, moi, quand je vois dans mes salles d'escalade, je vois partout des trucs de chiropraxie, d'ostéopathie. Vous savez que l'ostéopathie, c'est super hein, d'aller se faire craquer. Bon, déjà, c'est pas vos os qui craquent, ça sert à rien et vous risquez plus d'avoir mal en sortant qu'en rentrant. Ah oui, mais c'est bien quand ça fait mal. Non, c'est pas bien. Quand vous allez chez le médecin, c'est pour être soigné, c'est pas pour avoir plus mal en sortant. L'ostéopathie, au début, c'est créé par un médecin américain qui dit, dont vraiment le socle théorique est de dire le corps humain est comme une machine créée par Dieu. Dans une machine, pour qu'elle fonctionne correctement, toutes les pièces et tous les rouages doivent être à leur place. Et bien, dans le corps humain, il en va de même. Il faut que tous les organes soient exactement à leur place. Et comme ça, il n'y a plus de maladie, parce que d'ailleurs, les maladies n'existent pas. C'est qu'elles sont juste provoquées par un petit déplacement du foie, de la prostate, du pancréas, blablabla. Donc, c'est du bullshit total. Néanmoins, aujourd'hui, il y a des mutuelles de santé qui remboursent 2, 3 fois, 4 fois par an des consultations en ostéo ou en chiro, qui remboursent de la balnéothérapie, hein, c'est-à-dire que si vous voulez faire une petite cure de balnéo, c'est remboursé par la Sécurité sociale, et l'homéopathie était remboursée jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et donc, j'en reviens et je vais conclure, je disais tout à l'heure, notre besoin de consolation est impossible à rassasier, et parce que nous sommes des êtres humains, notre besoin d'irrationnel est impossible à rassasier. On a besoin de ces petites pensées magiques, on a besoin de ces trucs dont on sait qu'elles font des petites clés de bras à la vérité et à la réalité. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est comme ça qu'on se console, qu'on se rassure et qu'on se dit qu'on va aller un peu mieux. Bon, moi, le truc sur les Macs, hein, c'est que tant que ça vous fait pas de mal, si ça vous fait du bien, tant mieux. Ensuite, quand on s'appelle Thierry Casasnovas et qu'on a qu'on prescrit des jeunes hyper durs et qui finissent par coûter la vie à des gens qui suivent ces recommandations, ou des ostéos qui font des manipulations sur des bébés de 6 mois qui se retrouvent avec des handicaps à vie, et ben là, c'est plus cool et ça devient vraiment dangereux. Donc, voilà.
Par rapport à cette idée, il y a une question aussi
qui me taraude. Bon, on sait que certains gourous religieux ne croient absolument pas en ce qu'ils prêchent ou vendent, ça d'accord, mais est-ce qu'il en est de même avec les gourous médicaux? C'est-à-dire que quelquefois, quand je les entends et quand je vois leur obstination à faire passer une contre-vérité, je me demande s'ils ne sont pas eux-mêmes bernés par leur propre discours.
Il faut demander aux gourous.
Je ne sais pas, ouais. Je pense qu'il y a une... Enfin, je ne saurais pas dire... clairement, certains des confrères qu'on a vus passer à la télévision ont des problèmes psychiatriques lourdissimes, et je ne suis pas capable de faire des téléconsultations à travers l'écran de CNews. Donc, qu'ils croient à leur propre bullshit, c'est probable à un moment, parce que ce serait... Il y en a peu qui ont l'air d'être des escrocs totalement conscients de ce qu'ils font. Il y en a quelques-uns, mais il y en a quelques autres clairement qui ont un pet au casque grave. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a un élément, tout à l'heure, on a parlé de la difficulté de la médecine. Le problème aussi, c'est que le système de santé s'est effondré parce que personne au niveau politique n'en a rien à foutre que vous viviez longtemps après la retraite. Donc, moi, je fais partie de ceux qui, pendant 20 ans, ont alerté qu'on allait se prendre le mur. Et là, d'un seul coup, on a des politiques qui disent « Mais comment ça se fait? On n'a plus de médecins. Il n'y a rien. Les gens n'ont pas de médecins traitants. » Et tout. Ben, enfin, c'est pas tombé du ciel. Hein. Ça a été voulu. Pendant, je le redis, pendant 40 ans, on a considéré qu'un médecin qui s'installait dans une ville était comme un parasite ou une bactérie ou un virus qui allait générer des maladies pour survivre, c'est-à-dire en gros qui allait générer des examens complémentaires, des consultations et créer des faux malades pour survivre. Et donc, ce que les économistes libéraux ont dit aux politiques, c'est s'il y a moins de médecins, il y aura moins de dépenses et il y aura moins de malades. Ben non, en fait, s'il y a moins de médecins, il y aura certainement moins de dépenses, mais au final, les malades, ils vont exister quand même et ils n'auront personne pour les soigner. Ce qui vous arrive aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je travaille toujours en téléconsultation, je travaille en tant que retraité actif, comme on dit, je vois des patients de temps en temps, et ce que je vois aujourd'hui, c'est que moi, médecin, je travaille dans les ruines. C'est-à-dire que on s'habitue, nous, soignants, à travailler dans des conditions qui, à 15 ans, nous auraient fait déchirer la blouse et partir dans le désert en hurlant. Mais c'est devenu the new normal. C'est devenu le new normal d'avoir quelqu'un dont on pense qu'il a un cancer, je sais pas, du pancréas, et de lui dire, ben oui, effectivement, il y a 6 semaines de délai d'attente pour votre première consultation et il y a 1 mois et demi pour l'IRM, mais on ne peut pas faire autrement. Il y a 15 ans, on aurait remué ciel et terre pour que ça soit fait dans les 48 heures. Mais c'est parce que ça aurait été possible de le faire dans les 48 heures. Donc l'effondrement auquel nous assistons, l'effondrement auquel certains d'entre nous refusent de participer parce que vous entendez qu'il y a plein de soignants, il y a plein de médecins, il y a plein d'infirmiers qui quittent la blouse simplement parce qu'ils ne peuvent plus faire face au fait qu'ils doivent faire du tri de la gestion de la souffrance humaine. Ça ouvre la porte à des gens qui ont des pseudo-techniques et qui sont accessibles immédiatement en vous disant qu'ils vont vous sauver en vous faisant boire leur urine.
Stéphanie, en quoi toute cette défiance vis-à-vis de la médecine officielle ou, disons, la crédulité vers celle alternative peut se révéler dangereuse un jour en cas de pandémie, en fait, plus importante que celle du Covid ou d'attaque bioterroriste?
Excuse-moi, juste...
En gros, ce manque de confiance et cette facilité que l'on a aujourd'hui à prendre, soit à ne pas croire les affirmations officielles, soit à suivre des gourous, peut se révéler en fait dangereuse concrètement s'il y a une pandémie plus importante que celle du Covid ou une attaque rapide de bioterrorisme.
Pour ce qui est de la pandémie qui serait plus importante que celle du Covid, bon, je pense qu'on a déjà quand même vécu quelque chose d'assez fort. Après, il y a toujours un équilibre sur les pandémies qui sont très importantes comme ça, entre le taux de mortalité et l'efficacité en fait du pathogène. Pour ce qui est du risque terroriste, il peut être lié à des croyances. Il est souvent lié à des croyances. Hein. On le voit dans ce qui peut être généré actuellement dans les actes terroristes par eux-mêmes. Après, pour le moment, il y a quelques alertes de bioterrorisme, mais finalement, ça reste quand même une minorité. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, ça demande quand même une expertise assez importante de pouvoir manipuler des objets biologiques pour en faire un agent pathogène qu'on puisse répandre et qu'on puisse utiliser de façon intentionnelle. Donc on en est encore loin pour le moment.
Je voudrais juste redire quelque chose aussi. Je suis désolé, hein, je vais faire mon vieux con militant, mais je l'ai toujours en travers de la gorge. Hein, quand on parle beaucoup de la pandémie du Covid, notre président, bien aimé ou pas, quand il va avec son ton grave d'élève de cours de théâtre de seconde B, dire avec la gravitas sur le visage, de dire que c'est la plus grave crise sanitaire que l'humanité ait connue. Je suis désolé, hein, le VIH, c'est encore en cours. L'épidémie du VIH, elle a fait 36 millions de morts. Et même si aujourd'hui, elle est relativement contenue, il y a encore des gens qui crèvent du sida et moi, je perds encore des copains. Donc, rappelons-nous que, voilà, c'est le scénario du pire, il est déjà arrivé, en fait. Hein. Voilà, faut pas l'oublier non plus.
Toutes les personnes, les scientifiques, les médecins, qui tentent sur leur blog ou sur les réseaux sociaux d'expliquer et de rationaliser, généralement, ne parviennent pas à convaincre ceux qui sont de toute façon convaincus du contraire. Alors, au risque de laisser la parole aux victimes convaincues, souvent en plus très agressives, de l'escroquerie, peut-on estimer que ne pas rentrer dans le débat pourrait faire péricliter naturellement le mouvement de déni de la réalité ? En gros, tenter d'expliquer n'est-il pas plus dangereux que de se taire et avec l'espoir que finalement ça s'éteigne tout seul?
Ah non, mais si on renonce, on peut pas renoncer, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, on peut pas abandonner ce combat-là. Ou alors on laisse tomber et on se barre en autonomie dans une ferme, élever des chèvres et on se coupe de la civilisation, ce qui est une solution hein, par ailleurs. Mais si on, enfin. On peut pas abandonner cette lutte-là. Elle est épuisante. On est en train de la perdre hein, globalement. Enfin, c'est une lutte âpre. Encore une fois, moi, les souvenirs des messages que j'ai reçus pendant les radiographies du coronavirus, j'avais jamais reçu de vague de haine aussi violente que depuis que j'avais milité publiquement en 2013 pour le mariage pour tous. Il y a quand même des gens qui m'ont... J'ai reçu des menaces de mort. Sur ma page Wikipédia, des gens qui m'insultaient en me traitant de sale petite pédale gauchiste. Le niveau de violence a été inouï, au point tel que j'ai eu besoin de protéger mon copain. Enfin, je veux dire, de faire attention parce que... mon adresse circulait, etc. Enfin, les gens voulaient me péter la gueule quand même. Mais il faut continuer à se battre, en fait. Enfin, on ne peut pas abandonner en race campagne et laisser l'obscurantisme et la bêtise gagner. Enfin, je veux dire, ou alors on se fout tous en l'air, quoi. Enfin, je ne sais pas.
On ne peut pas plus abandonner la lutte ou d'avoir une position saine contre l'obscurantisme que contre le fascisme. Et ce qui est bien, c'est qu'on a la conjonction des deux là en ce moment. C'est-à-dire que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, il y a des choses à ne pas faire. C'est-à-dire agresser les agressifs ne sert à rien. Mais je me souviens que quand ça fonctionnait mal au début pour le vaccin, moi sur Twitter, j'avais fait un petit mot. J'avais dit si vous vous posez la question de vous vacciner ou pas, vous ou un membre de votre famille avec des difficultés particulières, etc., et que vous n'êtes pas contre, mais que vous êtes perdu dans les trucs, n'hésitez pas à me contacter en privé, en DM. J'ai eu des centaines de demandes de gens. Je suis embêté parce que avec ma compagne, on est séparés, et pour les enfants, on ne sait pas quoi faire. Eh ben, j'ai répondu à chacune de ces personnes individuellement. Évidemment, ça m'a pris des jours, hein, ça a duré vraiment pendant un mois et demi. Et en fait, les gens ensuite me répondaient 5 jours après. Ah ben, on a vacciné. Ma maman a accepté, elle a lu vos trucs, etc. Les gens. Pourquoi ? Parce que je leur parlais. On n'était pas dans une agora où il y avait des gens qui gueulaient. Je prenais de mon temps de médecin pour leur parler one on one un à un, comme on fait dans un cabinet de médecine générale. C'est-à-dire que un par un, je les ai amenés à réfléchir. Certains ne se vaccinaient pas, certains se vaccinaient, mais il y avait ça. Donc, il est possible de continuer à parler, pas forcément dans une foire d'empoigne. Et j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ce que les gens aient l'impression d'avoir créé un lien avec moi personnel qui faisait qu'ils venaient me dire « ça y est, j'ai fait la deuxième et ça s'est bien passé ». Parce qu'ils étaient rentrés dans autre chose. Donc, en fait, les gens, on peut les convaincre en leur parlant correctement. Et je disais très, très bien aux gens, si vous n'avez pas envie, ce truc, les gens qui m'insultaient, je virais, je dis, ça n'a pas d'intérêt. Les gens qui se posent une question, j'ai eu ça comme maladie. Voilà, je suis immunodéprimé parce que j'ai eu un cancer et que j'ai tel médicament. Et mon cancérologue me dit de ne pas me vacciner. Mais combien j'en ai eu des comme ça ? Ce qui est hallucinant. C'est hallucinant. Parce que la désinformation, elle ne vient pas seulement des escrocs, elle vient aussi des gens qui sont nuls, hein, qui sont des absolues nullités. Combien, je veux dire, pendant 2 ans, la Société française de pédiatrie a expliqué que ce n'était pas très grave si le Covid passait chez les enfants parce qu'ils ne passaient pas, ils n'étaient pas contaminants. Ce qui est une aberration totale, mais qui servait le discours du ministre Blanquer. Donc si tu veux avoir une Légion d'honneur, tu sais ce que tu dois faire. Donc, mais ça a été partout. Donc, tu ne peux pas abandonner le combat. Mais ne crois pas que le combat soit juste contre les dingues qui se tripotent leur barbe sale et grasse. C'est aussi contre des types qui ont pignon sur rue et qui font partie du mandarinat et qui sont reçus au ministère de la Santé. C'est-à-dire que quand il y a un grand raout, si j'ose dire, excellent, en juin 2021 pour remercier les soignants qui ont vacciné et tout, nous qui avons vacciné, on n'y est pas. Mais les directeurs d'ARS, les mecs qui sont dans les tuyaux, qui ont leur cadre, eux, ils sont là-bas. Ils sont là-bas parce que le président doit être entouré de gens qui vont l'applaudir. Et ce n'est pas nous, les fantassins dans la boue, qui allons l'applaudir.
Et on a plusieurs moyens de lutte en fait en fonction de ces expertises. Je pense par exemple en tant que scientifique, des publications qui sont pas avérées ou qui sont biaisées ou avec des fausses informations, on a aussi le moyen de lutter et ça a été le cas avec des publications de Raoult notamment qui ont été rétractées. Donc il faut continuer le combat à tous les niveaux.
Mais le pire c'est qu'il a poursuivi après. C'est ça qui est complètement fou.
Avec nos... La force de Raoult et de l'IHU, c'est d'avoir poursuivi des scientifiques, voire des scientifiques étrangers comme Elisabeth Bick, qui est américaine, sur l'argent de vos impôts. Et il y a eu, enfin, je veux dire, moi aussi, j'ai été menacé de mort par des gens de l'IHU. Il y a eu plein de déposés, etc. Et tout ça, ça a été éteint parce que Macron étant allé adouber le druide des Calanques à la demande de Bernard Arnault, quand même, faut le savoir, personne n'avait envie que ça aille beaucoup plus loin. Le directeur de l'université Aix-Marseille était au courant. Éric Berton, pour ne pas le nommer, était au courant que certains des gens qui étaient dans son truc accusaient les médecins vaccinateurs d'être des criminels qui devaient être décapités, etc. Et tout. Il n'a jamais rien fait. Et là, récemment, la PHM fait passer un tweet en disant qu'ils sont vraiment très, très... ils font vraiment très très attention à la vérité des informations, à la bonne conduite, etc. Donc ils vont quitter Twitter parce que c'est devenu une fausse sceptique. Mais c'est eux qui déversent de la merde dedans depuis 2 ans et demi. Mais c'est une façon de se refaire.
This is all horrible that this has happened. I think it's worth saying that the vast majority of time, people are not, in quotation marks, bad. Most extreme behavior comes from people who can be summed up by the sentence, I'm desperately concerned for my child. I'm desperately concerned for my parent, my loved one. And that desperate concern and anxiety tends to lead to foul and grotesque behaviors. And it tends to come from that place of, I love and I am anxious. Even in the climate crisis, a lot of people go, I don't want to have to take action because I am desperately concerned that it will destroy my job, or it will destroy the future of my child. A lot of vile behavior comes from love. And I think when you are dealing with people who are not necessarily promoting the conspiracy theories, but are part of it, who are lost to it, your first step is not to turn around and go, how can I shout you into submission? Your first step is to turn around and go, what is it that you are actually frightened of? It's not the vaccine. It might be the government. And there's reasons. Your government may have been horrid. Mine is. Like, it might not be the climate action. It might be you've got instability at work. You have to talk to people as though they are as human as you are. And sometimes it is desperately hard because we live in a time of culture wars where whole segments of society are being dehumanized and told you have to justify your existence. So yeah, it's hard, but you have to approach it from a position of you are also human.
C'est super ce que vient de dire Claire, c'est remarquable, elle a absolument raison. Et sans le savoir certainement, c'est le meilleur résumé qu'on puisse faire de The Leftovers. C'est-à-dire que ça, la série parle exactement de ça. C'est vraiment un résumé absolument parfait. Et juste un petit mot à côté, j'aimerais savoir qui a fait l'album photo et ce qu'il a bu avant de le faire. Parce que je veux bien la même chose après la table ronde. Ah bon, bah tu me diras.
Bon, bah du coup, on a eu une bonne conclusion. Donc, on va s'arrêter là, puisqu'il est 44 et quelque chose. Merci beaucoup à tous pour avoir été présents ici.
Un petit peu à Satan, éventuellement collectif. Allez. Alors, un petit peu plus, Laura Satan, allez hop là. Merci.
Actu SF. Les podcasts.